Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Jean-Pierre Mahé. Vous êtes philologue, on peut dire ?
Philologue, c'est bien le mot.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et j'insiste sur le mot lettres parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. L'arménien a un alphabet qui lui est propre et qui a une histoire extrêmement précise. Il a été construit au début du 5e siècle.
Au début du 5e siècle. Et c'est extraordinaire parce que nous avons la chronique d'un témoin de l'événement. C'était un petit élève de 12 ans à l'époque qui a été formé à écrire par l'inventeur même de l'alphabet.
Donc c'est une invention consciente.
Une invention consciente.
C'est ce moine dont vous allez me dire le nom.
Il s'appelle Mesrop Machtots.
Ce monsieur, moine, qui avait envie de transmettre la religion.
Oui, il avait envie d'enraciner, en quelque sorte, le texte biblique. Et il s'était dit que les prédications orales, ce n'était pas suffisant.
Donc ce moine se dit, j'ai besoin de créer un alphabet pour mon pays.
Oui.
Et il le fait. Alors dites-moi comment il s'y prend.
C'était une affaire subversive, parce que inventer un alphabet pour l'Arménie, qui était sous domination perse à l'époque, c'était en quelque sorte tendre la main aux Grecs, qui étaient les ennemis jurés des Perses. Donc, pour inventer un alphabet, en fait, il fallait reprendre une écriture déjà autorisée dans l'Empire perse. Et il apprend que dans la région d'Édesse, il y a un prêtre de langue syriaque un peu extravagant qui a utilisé un vieil alphabet en usage dans la région pour écrire de l'arménien. Donc il va voir ce savant, il se rend compte que cet alphabet n'est pas suffisant parce qu'il ne contient que 22 lettres et ça ne correspond pas du tout au nombre de phonèmes de l'arménien, il faut au moins 36 signes différents pour traduire tous les phonèmes de l'arménien, mais il fait semblant d'adopter cet alphabet et après, il demande la permission de le perfectionner.
Alors, j'ai deux questions naïves à vous poser. À cette époque, la langue arménienne est parfaitement stabilisée.
Non. La plus grande plaine d'Arménie, qui est au nord, qu'on appelle la plaine de l'Arax, si vous voulez, ou de d'Ayrarat, là où se tient le mont Ararat, et c'est là que se trouve la cour royale. Donc, malgré tout, c'est le dialecte de la plaine d'Ararat qui va servir de base. Mais tout le reste de l'Arménie, qui est un très grand pays, qui fait à peu près 400 000 km² de superficie, eh bien, aujourd'hui, ça fait plus que 29 000 km². Bon, tout ça, c'est parcouru par toutes sortes de dialectes qui sont très différents. Au point de vue de la phonétique, au point de vue de la morphologie.
Est-ce qu'on peut faire une analogie avec la France ? C'est en quelque sorte le français sort du pouvoir royal ?
Absolument, absolument. Et avec une diversité linguistique qu'il ne faut pas sous-estimer en France.
Alors revenons en deuxième question naïve que je voulais vous poser. Quelle était la proportion de personnes qui savaient lire et écrire à cette époque ?
Oh, à cette époque, avant l'invention de l'alphabet national surtout, très peu, parce qu'il fallait lire en quoi ? En syriaque, en grec, c'était la seule chose. Même en perse, ce n'était pas possible à l'époque, hein, parce qu'on ne l'écrivait pas.
Il y a eu une entreprise pédagogique pour enseigner cet alphabet ?
Ben oui, parce que l'alphabet était une commande royale. Par conséquent, on a fait des rafles dans tous les villages. On a emmené des enfants fort, avec des bons poumons, parce qu'il devait devenir prêtre et chanter la messe par la suite. On les a instruits et on ne les a libérés que quand ils ont dit « j'ai oublié la maison de mon père ». Et la langue de mes parents.
L'analogie avec le français, il y a aussi une période où les instituteurs n'avaient pas le droit de parler le dialecte local dans leur classe.
Ah, c'est un peu ça.
Bon, alors... Vous êtes ce moine et vous voulez inventer, créer un nouvel alphabet. Alors comment on s'y prend? Il faut être quand même très cultivé par ailleurs.
Oui, parce que vous voyez, nous nous intéressons à la forme externe des alphabets. C'est ce qui se voit, c'est ce qui est le plus intéressant pour les livres, etc. Bon, mais il faut bien comprendre qu'un alphabet a une forme interne, c'est-à-dire un contenu phonétique, n'est-ce pas? Une organisation interne et puis une forme externe. Et que la forme externe, c'est le plus variable. Ce qui change le plus avec le temps. On voit les écritures du XVIe siècle ne sont pas les écritures du XXe ou du XXIe siècle.
On parle d'écriture manuscrite, bien sûr, et pas imprimée.
Oui, mais même les écritures imprimées ont beaucoup évolué. Si on prend un livre du XVIIe siècle, on aura peut-être quelques difficultés à lire certains mots.
Tout à fait.
Au point de vue de la forme interne, il faut, à l'époque, distinguer ce qui existe en grec et en arménien, en commun. Parce que ce qui existe en grec et en arménien, on va trouver un arrangement avec les lettres grecques déjà existantes.
Donc là, vous parlez du son.
Je parle du son.
Du son qui peut être commun entre le grec et l'arménien.
Oui.
D'accord.
Au fond, ces lettres grecques, ou ces lettres grécoïdes, si je puis dire, qui ont un équivalent en arménien, on peut les désigner comme un système à part. Mais après... Il y en a 22.
Les 22, c'est en gros celles que nous avons aujourd'hui?
C'est à peu près celles que nous avons aujourd'hui. Attention, ce qui est très important, c'est qu'il y a des voyelles et des consonnes. Parce que si vous faites comme les Phéniciens, ou les Hébreux, ou les Arabes, vous oubliez les voyelles, c'est pas très important. Mais vous voyez, dès que vous essayez de passer ça en iranien, je parle en iranien moderne, ça pose des problèmes. Il va falloir inventer des systèmes pour indiquer les voyelles.
Donc 22 lettres qui sont en quelque sorte... que nous avons en commun.
Que nous avons en commun. Et puis, il y a des lettres compliquées qui sont trois espèces de tch ou dj, trois espèces de tse ou tse, et puis quatre espèces de r, et puis quatre... Vous voyez, ce sont des lettres qui n'existent pas chez nous. Alors, ces lettres-là, elles sont fabriquées suivant un procédé commun. Par exemple, on va décider que toutes les lettres qui sont en tch ont des côtés brisés. Des formes géométriques brisées. Toutes les lettres qui sont en dessous ont des côtés arrondis, pas brisés. Et puis, si elles sont sonores, la barre est au-dessus. Si elles sont sourdes, la barre est en dessous. Si elles sont aspirées, il y a une brisure, et ainsi de suite. Donc, c'est formé d'une façon tout à fait systématique et raisonnable.
Et les enfants, aujourd'hui, apprennent ça de cette manière ?
Non, pas du tout. Les enfants se rendent très bien compte, d'abord parlent la langue, on leur explique à peu près comme on le faisait dans la méthode Boucher. D'autre part, ils sont très agiles, si je puis dire, parce que dès la deuxième année, ils apprennent le russe. Très tôt aussi, ils apprennent des langues étrangères, donc ils n'ont aucune difficulté. Mes propres enfants ont fait des études, les deux premières années d'études primaires en Union soviétique, République d'Arménie, et ils sont revenus très agiles au point de vue
des caractères.
Des caractères et des compréhensions phonétiques.
Est-ce qu'aujourd'hui, cet alphabet est en péril ?
Absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire, c'est devenu un symbole national. Et le problème est tel que les humoristes prétendent que l'inventeur se consterne de voir que son alphabet ne sert plus à parler, à écrire, etc., mais à adorer.
Et alors, ce moine, dont je n'arrive pas à prononcer le nom, il est une célébrité.
C'est une célébrité. La plus grande avenue d'Erevan s'appelle Avenue Mesrop Mashtots. Le temple de la République, en quelque sorte, c'est l'Institut des manuscrits qui s'appelle Matena Daran.
A été traduite aussi par ce même moine ?
Oui, oui, oui. Et par ses disciples. C'était un gros travail.
Et à quelle époque cet alphabet est devenu imprimé ?
Il est devenu imprimé en 1511, à Venise.
À Venise ?
Parce qu'à cette époque, c'était déjà l'Empire ottoman, les Arméniens avaient été dépossédés de leurs terres, les paysans qui étaient restés sur place étaient misérables. Il y avait une très grande diaspora déjà en Asie mineure. Finalement, c'était le négoce international qui, je vous le rappelle, jusque en 1850, est majoritairement par voie de terre. Ce négoce international, il va jusqu'à Constantinople et après, on prend des bateaux et on va vendre en Europe ou dans la mer Blanche. Et donc, à Venise, il y avait tout un quartier peuplé par des Arméniens. Et un Arménien réussit à tromper la police. Alors oui, les Arméniens étaient réputés hérétiques et schismatiques. Donc imprimer la Bible en arménien, ça pouvait vous conduire à de très fâcheuses aventures. Un curé arménien qui habitait Venise réussit à s'associer à un imprimeur italien. L'imprimeur décède, il garde la marque et pendant 3 ans, il joue à cache-cache avec la police et il publie 5 livres. Et ça, c'était très important.
Donc ça, c'est de 1500 et des poussières.
Ça, c'est 1511 à 1514.
Comme vous le savez aussi bien que moi, les caractères romains que nous utilisons ont une grande variation depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des tas de polices de caractères différentes avec des empattements, sans empattements, etc. Est-ce que l'alphabet arménien a eu aussi une évolution, une vie en quelque sorte, d'un point de vue esthétique?
Oui, d'un point de vue esthétique, il a eu une vie, mais qui est longue et antérieure à 1511, bien entendu. C'est-à-dire qu'on est au départ, il y avait probablement une écriture très rapide, mais qui n'était pas formellement différente de la grande majuscule. Comme le but de l'alphabet, c'était d'écrire le texte sacré, on l'écrivait toujours en majuscule. Ça vous prenait 4 volumes pour l'Ancien Testament. C'est seulement au XIIe siècle qu'on a inventé les Bibles en 1 volume. Mais je vous ferai remarquer que c'est une chose tout à fait perverse, parce que ça veut dire le libre examen, ça veut dire la libre lecture, les laïcs qui s'intéressent sans le ministère de l'Église, etc. etc. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de dangereux. Alors, pour l'imprimerie, donc, il y a tout ce passé derrière. Mais il y a quelque chose d'amusant. C'est que les premiers livres ont été imprimés dans des écritures volontairement irrégulières. C'est-à-dire que pour chaque lettre, il y avait 3 ou 4 formes qu'on employait d'une façon aléatoire. Parce que si ça avait été uniforme, on aurait pu croire que c'est le diable qui a écrit le livre. Et donc, pour pas effrayer les curés de campagne, on a fait des éditions avec des caractères un peu biscornus, comme ça. Et puis après, les Italiens sont intervenus et les Flamands, et on a eu des belles inscriptions, tout à fait belles. Et alors, l'autre étape, c'est l'étape soviétique. C'est-à-dire que si vous alliez à l'école estienne au siècle dernier, vous appreniez aussi à imprimer l'italien, mais vous appreniez qu'il y a des lettres qui ont des excroissances, si je puis dire, en haut ou en bas, et que donc, si on met telle lettre à côté de telle lettre, il faut utiliser une variante.
Un peu comme des ligatures.
Comme des ligatures. Il faut utiliser une variante. C'est ce qu'on apprenait. C'était très beau, d'ailleurs. C'était les Italiens qui avaient inventé ça, et c'était très, très beau. Et les Soviétiques ont inventé le monobloc. C'est-à-dire, les Arméniens soviétiques ont inventé le monobloc. C'est-à-dire, chaque lettre occupe exactement le même volume, ce qui facilite l'impression mécanique. Et maintenant, les polices soviétiques ont évolué et il y a des très belles polices monobloc.
Monobloc ?
Monobloc, je veux dire, toutes les lettres sont égales. C'est ça que je veux dire.
Et vous trouvez que c'est beau ?
Oui, c'est beau. C'est-à-dire, si on raffine un peu, c'est plus pratique, je veux dire, pour l'ordinateur, pour la machine, pour la presse, pour tout ce que vous voulez. Et d'un point de vue esthétique, c'est beau. Mais alors, ils ont l'esprit, de notre point de vue français, si vous voulez, à l'envers. C'est que tout ce qui est courant est penché. Quand nous, on mettrait des italiques, eux, ils mettent en droit. C'est quelque chose de bizarre.
Est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue aux empattements ?
Non, pas du tout. Pas du tout, sauf si on fait des fantaisies de style. Mais non, il n'y a rien de tel. C'est une écriture manuscrite du XIIIe siècle, ce qu'il lit en général. Une écriture manuscrite du XIIIe siècle, mais qui a été régularisée, stylisée et dessinée par des designers italiens ou flamands, et qui dessinaient très bien. Alors, flamands parce qu'il n'y avait pas l'Église catholique. Enfin, si, dans les Flandres, oui, mais je veux dire, dans les Pays-Bas, on pouvait imprimer des livres hérétiques en toute tranquillité. Et c'était la raison pour laquelle la première Bible arménienne apparut à Amsterdam.
Alors, évidemment, tout ça a entraîné une littérature de grande qualité.
Oui, absolument. Mais alors, cette littérature, elle arrive plus tard. Elle arrive, malgré la police russe, vers 1848, du côté de l'Empire russe, et elle arrive dans les années 1880, dans l'Empire ottoman, où l'imprimerie est encore très surveillée.
Merci pour cette conversation, mais pour terminer, je vais vous poser la même question que je pose à tous mes interviewés. Est-ce que vous pourriez me recommander une musique qui pourrait illustrer notre propos ?
Ben écoutez, qui n'a pas de rapport, si vous voulez, mais c'est un chant qui s'appelle Korun. C'est le chant d'exil arménien. C'est la plus belle musique, la plus émouvante qui soit. Je connais un chanteur qui est particulièrement convaincant. Il s'appelle Mukherjic Mukherjian. Mais je vous l'écrirai.
Ah oui.
Je vous l'écrirai, Mukherjic Mukherjian.
Un grand merci.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.